Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Émission spéciale réforme des retraites, première partie. Invité aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury, une émission spéciale, donc réforme des retraites. En deuxième partie, Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière, nous rejoindra pour un débat face à notre invité du jour, Jean-Michel Blanquer. Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Benjamin
Sportouche. Merci d'être avec nous aujourd'hui à mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour. Et j'aurais dû commencer par Amélie Carouer de TF1 LCI. Bienvenue Amélie, bonjour. Et bien sûr, question nette, hein, comme d'habitude vous y êtes habitués, Marie-Pierre Haddad nous rejoindra en fin de première partie pour vos questions, vos interpellations au ministre. Vous pouvez toujours réagir en direct, hashtag le grand jury. Alors Jean-Michel Blanquer, un an après les Gilets jaunes, le gouvernement auquel vous appartenez se retrouve à nouveau au cœur d'une nouvelle crise sociale, mais aussi face à une crise de confiance, et notamment du corps enseignant, ce qui vous concerne plus directement. Écoutez, regardez cette enseignante qui vous a interpellé vendredi soir à Nancy.
Comment voulez-vous que nous vous croyons quand vous dites que vous allez tenir compte de notre avis ? Vous ne nous écoutez pas parce que vous pensez que nous avons des choses intéressantes à vous dire. Vous nous écoutez parce que nous sommes dans la rue et que vous avez peur de la rue.
Alors, Jean-Michel Blanquer, avez-vous les moyens de rassurer les profs ? Nous en parlerons dans la première partie de cette émission et dans la seconde partie de ce grand jury. Donc, ce débat attendu, vous serez face à Yves Verrier. Sans plus attendre, la première question vous est posée par Amélie Carouer.
Donc, bonjour, monsieur le ministre. Jean-Paul Delevoye, monsieur retraite, le haut commissaire reconnaît avoir oublié, je le cite, il parle d'omission, non pas 3 mandats, mais 13 mandats dans sa déclaration. Peut-il tenir ? Peut-il rester en fonction ?
Je vais vous répondre, mais d'une certaine façon, vous avez déjà posé une question en montrant cette vidéo, puisque il faut quand même y répondre. Je pense que trop souvent, on a des morceaux comme ça médiatiques.
Mais on y reviendra, de toute façon.
Oui, on y reviendra, mais je veux tout de suite dire que justement, on est dans l'écoute, on l'a été, on l'est encore, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à préciser, et c'est sans doute ce qu'on va démontrer pendant l'heure qui vient.
Justement, dans une période de défiance, est-ce que Jean-Paul Delevoye peut rester en fonction ?
Bon, alors je répondrai à, puisque vous y tenez, je vais vous répondre, mais je veux quand même répondre, comme je l'ai fait à Nancy, à ce qui a été dit là. C'est absolument pas les manifestations qui nous font parler aujourd'hui des rémunérations des professeurs et des autres sujets qui vont avec le système de retraite. Si vous regardez bien, c'est au moins depuis le mois d'avril et la conférence de presse du président de la République que nous en parlons. Donc je ne veux pas laisser installer cette petite musique qui voudrait dire que d'une certaine façon on réagit à la dernière minute à des manifestations. C'est tout le contraire. Il y a un système de retraite qui est prévu par 18 mois de travail, notamment d'ailleurs grâce à Jean-Paul Delevoye qui a fait un énorme travail de consultation. Et de manière assez lente, c'est vrai, mais sûre, progressive, parce que c'est un sujet énorme, eh bien nous avançons et nous avançons mais en cohérence avec ce que nous avons dit. Alors sur Jean-Paul Delevoye.
Oui, parce qu'on va question. Vraiment reparler d'accord. Des enseignants.
Mais sur Jean-Paul Delevoye, d'abord il a fait ce travail que je viens de rappeler, il a commis une erreur, il le dit lui-même, il a utilisé le terme, et c'est une erreur sans aucun doute. Une erreur, donc on parle de 13 mandats, n'oublions pas que 11 d'entre eux c'est bénévole. Ça nous dit quelque chose aussi, j'en profite pour le dire, de la personnalité de Jean-Paul Delevoye, qui est quelqu'un de très investi dans la vie associative, qui est un homme du Nord, pétri de l'intérêt général, qui a fait énormément de choses dans sa vie, et je ne voudrais pas que sur cette erreur-là, il soit dans... Qu'on abuse sur la façon de le
mais est-ce qu'il peut
de l'attaquer.
Cette
maintenant, lui-même s'exprimera, je pense, tout au long des prochains jours. Mais on voit bien qu'on a cette réforme de retraite qui est très importante, qu'il est l'homme qui l'a préparée et que c'est un peu dommage que ce soit pollué par cette erreur qu'il a commise. Je vous l'accorde volontiers. Maintenant, il va la réparer en remboursant, bien entendu. Et puis, eh bien, c'est lui qui répondra le mieux aux autres questions que vous avez envie de poser.
Donc vous n'êtes pas sûr qu'il ne soit pas devenu un peu le maillon faible.
Mais vous le voyez à l'Assemblée, ce qu'il va falloir de porter à l'Assemblée, se bagarrer face à des oppositions, vous le voyez porter cette réforme avec ce boulet qui part.
Il n'est pas tout seul en plus.
Ministre est embarrassé par ce truc comme ça.
Il y a Agnès Buzyn, il a l'ensemble du gouvernement, le Premier ministre. C'est un travail collectif, vous le savez bien. Je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser totalement sur ce point au moment où on a un sujet d'une telle énormité.
Donc c'est à lui de choisir. Il peut partir il peut partir et bon, vous ne trouveriez pas ça complètement ça, anormal.
On pourrait dire ça de chacun d'entre nous sur chaque problème.
Bon, alors pour en venir donc au sujet des retraites et au fond de la réforme, Laurent Berger ce matin dans le journal du dimanche appelle donc à une trêve pour Noël. Est-ce que vous lui dites merci, Jean-Michel Blanquer ?
Bon, je ne sais pas si le sujet est de manifester de la gratitude, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut reconnaître le bon sens de Laurent Berger, qui on voit presque en toutes circonstances, c'est-à-dire la nécessité tout simplement de faire en sorte que les Français puissent passer des vacances de Noël normales. C'est bien le moins, si je puis dire, et je trouve que Laurent Berger a tenu tout simplement des paroles de raison et de bon sens.
Et vous appelez les autres syndicats à faire comme lui ?
Bien entendu, je pense que d'ailleurs, je pense que les familles des membres des autres syndicats pensent la même chose que Laurent Berger et que moi-même. C'est-à-dire que il y a un moment où un grand pays doit savoir se rassembler, notamment quand il y a des trêves qui rassemblent les familles dans tout le pays.
On verra si Verrier vous répond favorablement à cette demande. Amélie Carouer.
Vous tombez d'accord avec la CFDT, a priori, sur la période de Noël et sur le fond maintenant. Parlons du fond, sur l'âge pivot. Si l'impasse dure et se durcit même, pourriez-vous retirer, oui ou non, l'âge pivot, Laurent Berger vous le redemande aujourd'hui?
Vous savez, l'âge pivot n'est pas le totem de la réforme. La réforme, c'est d'ailleurs de ce point de vue-là, on est d'accord avec Laurent Berger, le fondamental de la réforme, c'est la retraite à points et le fait d'arriver à plus d'égalité, plus de justice entre tous les Français. C'est le sujet majeur. La question de l'âge pivot est un des moyens, un chemin que propose le gouvernement pour arriver à une finalité qui, elle, s'impose à nous tous les Français, c'est-à-dire l'équilibre. Et c'est pourquoi cette idée de l'âge pivot, elle s'est accompagnée de quelque chose qu'on souligne pas assez, c'est de dire aux organisations syndicales, si vous avez une meilleure idée pour arriver à l'équilibre, on pourrait la retenir. Et on a 2 ans pour cela, puisque le début de la mise en œuvre de la mesure âge pivot, c'est 2022. Donc on a d'ici au 1er janvier 2022 pour trouver éventuellement un autre chemin. Mais par contre...
Mais des idées, pardon, il y a un côté un peu factice, parce que pour arriver à l'équilibre, si le principe c'est l'équilibre, il n'y a pas 36 solutions, il y a la cotisation et il y a l'âge.
Mais ça, c'est ce qui s'appelle partager les responsabilités. Ça permet de dire devant tous les Français qu'en effet, comme vous le dites là, il y a 3 facteurs, il n'y en a pas d'autres. Il y a soit on baisse les pensions, en général aucun d'entre nous ne le veut, et surtout pas le gouvernement.
Bon.
Deuxièmement, augmenter les cotisations, et ça, on est peu nombreux à le souhaiter, en tout cas c'est pas mon cas, parce qu'aujourd'hui elles sont déjà très fortes.
Donc,
soit on joue sur la durée du travail.
Donc pour vous, il restera
c'est donc
une
la
mesure
proposition.
D'âge.
Non, mais peut-être il peut y avoir d'autres idées, ça se discute encore. Bah. Encore une fois, on le fait pas par dogmatisme, on le fait par sens des responsabilités. Parce que si on ne faisait pas quelque chose de ce genre, ça voudrait dire qu'on pousse la neige devant nous et qu'on la laisse à nos suivants, c'est-à-dire nos enfants.
Mais
donc nous avons voulu. Je sais bien qu'on dit les deux sujets se polluent. Et c'est vrai qu'on voit bien que ce serait plus commode pour nous d'éviter d'avoir ces mesures d'équilibre. Mais ce qui caractérise ce gouvernement, c'est de prendre les sujets à bras le corps. Et en l'occurrence, on a pris et le sujet des décennies à venir, c'est-à-dire même des enfants qui ne sont pas nés encore aujourd'hui, parce que ce qui est en train de se produire, c'est une véritable refondation pour l'ensemble du XXIe siècle, pour avoir un système de retraite plus juste et aussi plus sûr, plus pérenne. Donc ça, c'est notre vision du long terme. Mais même à court et moyen terme, il faut assurer l'équilibre, et c'est pourquoi on fait cela. On aimerait mieux ne pas avoir à le faire.
Alors, mais vous n'aimeriez pas. Est-ce que vous pouvez dire,
le gouvernement avait pris des mesures plus impopulaires, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez dire,
c'est nous qui l'assumons.
Est-ce qu'il n'y a pas non plus une position d'ouverture en disant voilà, ça sera pas forcément dans la loi cadre de février prochain, l'âge pivot, on attend que les négociations se fassent et on verra si vous n'aboutissez pas comme sur l'assurance chômage, eh bien nous l'introduisons. Est-ce que c'est possible que ce ne soit pas dans la loi cadre ?
De toute façon, tout ce qui a trait à l'âge pivot est fait pour être discuté et c'est pour ça que le Premier ministre d'ailleurs reçoit les organisations
syndicales.
Non mais
vous ne répondez pas Jean-Michel Blanquer, est-ce que c'est un préalable que ce soit dans la loi ? Est-ce que vous pouvez dire à Laurent Berger aujourd'hui, voilà, vous faites un geste sur la trêve à Noël, bah, nous aussi on peut vous dire, voilà, l'âge pivot ne sera pas dans la loi, on prend le temps de négocier, on verra après.
Écoutez, par définition, ce qui fait l'objet de discussion ne se décide pas avant que la discussion commence, et la semaine prochaine, donc, Laurent Berger et d'autres syndicats seront reçus. Tout à l'heure, on va parler en direct avec Yves Verrier. La porte, elle est ouverte. Et encore une fois,
C'est une hypothèse.
Il ne faut jamais confondre la fin et les moyens. Ce qui est très important, sur tous les sujets politiques, c'est de dire quelle est la finalité. Sur la retraite, nous le disons très clairement, la finalité, c'est l'égalité entre les Français. C'est refonder le contrat social autour des retraites, autour du principe d'égalité. C'est pourquoi c'est parfois surprenant de voir des organisations qui ont comme fondement le principe d'égalité venir contester cette réforme qui est profondément égalitaire entre tous les Français. Mais non seulement l'égalité, mais aussi la pérennité, c'est-à-dire le fait que ce système doit fonctionner pour longtemps. Et pour cela, il faut regarder ensemble, avec les organisations syndicales, comment on fait. Parce que c'est toujours...
Donc vous ne dites pas complètement non.
Je n'ai pas dit complètement non, parce que...
Il est possible de sortir de la loi.
Je dis... Nous avons des finalités. Ces finalités sont très claires. Je viens de le dire, c'est l'égalité et puis la pérennité du système. Ça, on n'en bougera pas. On voudra toujours cela. Maintenant, une fois que c'est à l'aune de ces finalités qu'on peut discuter des chemins, bien entendu.
Autre piste, un âge pivot qui serait plus 64, mais 63, un peu moins. Ça a bien fait une part du chemin.
Écoutez, tout se discute. À ce stade, du moment que ça nous permet d'arriver, encore une fois, s'il y a une bonne idée qui permet d'arriver à l'équilibre, évidemment que nous la retiendrons.
Alors, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup, la valeur du point. Dans une période de défiance, beaucoup pensent que ça ne tiendra pas, que ça baissera. Si c'est dans la loi, même si c'est dans la loi, ce que la loi fait, la loi peut le défaire. Comment vous pouvez rassurer les Français ?
Alors d'abord, les lois, tout à l'heure on parlera de la loi de programmation pour l'éducation, il y a des lois qui sont très très difficiles à défaire, celle-ci en sera une, et je ne pense pas qu'un gouvernement puisse défaire une loi qui dira ce que dira celle-ci. Maintenant, sur la valeur du point...
Sinon, qu'est-ce qui l'empêchera de le faire ?
Parce que pour des raisons politiques, ce sera très difficile, y compris même pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez établi des règles du jeu, regardez le processus, la lourdeur du processus dans lequel nous sommes engagés. C'était d'ailleurs un engagement du président. Je pense que c'est précisément pour éviter au quinquennat suivant d'avoir à tous les quinquennats suivants
en Suède
d'avoir
votre
à reprendre
exemple.
Vous savez, ce qui est frappant, c'est
l'exemple que vous
c'est pas la
vous
première fois.
À chaque fois le
excusez-moi, mais pour terminer, mais c'est pas la première fois que nous avons de grands troubles autour d'une réforme des retraites. C'est au moins la quatrième fois et peut-être même davantage. Et on en a tous la mémoire d'avoir vécu d'autres grèves, d'autres moments de ce type assez désagréables. Ça aurait été bien que les précédentes fois soient une fois pour toutes. Eh bien, cette fois-ci, il faut que ce soit une fois pour toutes. C'est-à-dire que les prochains mandats, mais je parle aussi dans les années 2030, 2040, 2050, nous évitent ces psychodrames qui sont évidemment préjudiciables à nous tous et qu'on puisse avoir un système sain, entre parenthèses, copiloté par les organisations syndicales.
Le principe d'un système à points, c'est que le point varie. C'est ça, un point
c'est
quelque chose qui varie pour assurer un équilibre.
Garantissons deux choses. Un, qu'il ne baissera pas, ce qui est un point majeur. Deux, même qu'il ira, et c'est une avancée sociale très importante, non pas au rythme de l'inflation, mais au rythme des salaires. Or, dans toutes les décennies précédentes, l'augmentation des salaires a été supérieure à l'inflation en moyenne. Donc, c'est une avancée sociale très importante.
Mais dans la théorie du système du point, c'est que le point varie pour assurer l'équilibre. C'est ce qui s'est passé en Suède, quand, et à un moment, le point baisse pour assurer l'équilibre des retraites. C'est ça, une retraite à point.
Oui, mais juste, sauf que vous pouvez avoir une vision pluriannuelle d'un tel sujet. Sur le plan pluriannuel, si vous êtes indexé sur l'augmentation des salaires, en gros, vous êtes indexé sur quelque chose qui ressemble à l'augmentation du produit intérieur brut. Précisément, nous disons que ce sera toujours 14% du produit intérieur brut, ce qui est considérable. Nous sommes un des pays, pour ne pas dire le pays, qui consacre le plus grand pourcentage de son produit, de sa richesse, c'est-à-dire la richesse que produisent tous les Français chaque année, eh bien, aux retraites. 14%, c'est un choix politique très important. Eh bien, nous devons, au cours des années suivantes, continuer à faire progresser la richesse de la France et avoir des retraites correspondantes.
Jean-Michel Blanquer, nouvelle journée de mobilisation mardi prochain, et cette fois, il y aura plus de syndicats, et notamment, on l'a dit, la CFDT. Est-ce que l'ampleur de la mobilisation mardi pourrait être de nature à faire bouger, à peser sur les négociations? Et ensuite, avez-vous un message tout particulier aux enseignants qui vous concernent?
Oui, de toute façon, nous sommes en position de négociation. Donc, nous n'avons pas besoin d'une pression particulière. La porte est ouverte. Le Premier ministre l'a dit. Je l'ai dit j'ai d'ailleurs commencé à le faire. J'ai reçu les organisations syndicales vendredi dans un nouveau moment de négociation, après d'autres qui ont commencé au mois de septembre. Je les reçois encore demain, lundi. Et vous voyez, donc, ça continue. On n'est pas du tout dans une situation bloquée où nos portes seraient fermées et où il n'y aurait rien à discuter. Il y a au contraire beaucoup de choses à discuter. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait que les organisations syndicales, dès lors qu'elles sont dans une posture constructive, peuvent tout à fait faire encore avancer le sujet.
Alors, si on en vient donc aux enseignants, hein, puisque c'est bien définiment le cœur de votre mission, combien mettez-vous sur la table aujourd'hui pour revaloriser leur salaire ? Est-ce que c'est bien 10 milliards, Jean-Michel Blanquer ? Est-ce que c'est sur 10 ou 20 ans ?
Dans la durée, nous savons que c'est en effet un chiffre de cet ordre-là. Mais je voudrais remettre les choses en perspective sur la question des retraites des professeurs. Parce que j'ai toujours dit la même chose sur ce point, et je crois même la dernière fois que j'étais à votre micro, j'avais, si vous reprenez mes citations, vous verrez l'exacte continuité de ce qui est dit. Cette continuité, elle est d'abord au moment où je suis arrivé dans mes fonctions, où j'ai dit que nous travaillerions sur l'augmentation de la rémunération des professeurs, qui n'est pas un sujet facile, puisque on a 1 million de personnels de l'éducation.
Et vous avez dit les 300 euros d'augmentation, ça avait été voté sous le quinquennat précédent. On avait parlé de ça.
Oui, tout à fait. Ce qui est un des points parmi bien d'autres du sujet, mais en effet. Donc, augmenter les rémunérations. Sujet qui n'est pas facile, qui requiert énormément de travail, et puis aussi l'engagement de la nation sur la durée pour y arriver. Encore un autre sujet sur lequel nous avons accumulé des retards au cours des précédentes décennies, et que ce gouvernement décide de prendre à bras-le-corps. On n'a pas manqué d'entendre toute une série de critiques, ou plutôt de propos qui sont faits pour troubler ce message, pour faire comme si je ne l'avais pas dit. Mais je l'ai dit depuis le début. Donc, depuis le début, c'est dit. Ensuite, il y a une étape très importante, j'y ai fait référence tout à l'heure, c'est la conférence de presse du président de la République à la fin du mois d'avril. Je demande vraiment à chacun de regarder ce qui a été dit ce jour-là. L'éducation était au centre de son propos. par bien des aspects. C'est le moment où on dit qu'il n'y aura pas d'école rurale qui fermera sans l'accord du maire. C'est le moment où on dit qu'on va dédoubler en réseau d'éducation prioritaire les grandes sections de maternelle. C'est le moment où on dit qu'on va limiter à 24 le nombre d'élèves en grande section CPCE1 pour toute la France.
Et bref, ce qui les préoccupe, ce sont les salaires. C'est important, Jean-Michel Blanquer.
J'y arrive, mais il faut toujours mettre les choses en perspective, sinon on se contente de slogans. Que chacun regarde ce qui a été dit à ce moment-là. Le président de la République a dit « et nous allons augmenter les rémunérations des professeurs et nous le ferons parce qu'il y a un lien logique avec ce qui se passe en matière de système des retraites ». Immédiatement après, au mois de juin, j'ai dit « nous le ferons ». Il y a eu d'ailleurs des contestations à ce moment-là parce que les gens disaient « il dit ça mais il ne le fera pas ». En fait, dès le mois de septembre, j'ai fait du dialogue social pour commencer à poser les bases de ça. On a créé notamment un observatoire des rémunérations dont les syndicats disposent désormais des résultats, c'est-à-dire on a maintenant une vision beaucoup plus complète et précise des parcours de rémunération de l'ensemble des personnels. Et c'est sur cette base-là, désormais très préparée, que commence maintenant un nouveau train de discussion pour, en effet, l'augmentation de la rémunération des professeurs, avec un but très clair, affiché par le Premier ministre lui-même dans son discours du 5 décembre, c'est-à-dire arriver à ce que les pensions des professeurs ne baissent pas
Par le jeu d'une réforme qui fait que la retraite sera calculée sur la vie, et donc ça, mécaniquement, ça ferait baisser si on ne compense pas. Pour compenser, il faut mettre combien ?
Alors, les sommes, justement, sont faites pour être calculées dans le cadre des discussions que nous avons.
Mais c'est vrai que
sur une période, si vous voulez, les premiers qui prendront leur retraite au titre du nouveau système, ce sera en 2037. Hein. Ce sera donc la génération 1975, née en 1975, prenant sa retraite en 2037. Ceux qui sont nés avant 1975, sont dans le système actuel, rien ne changera pour eux. On fera des efforts de rémunération de ce côté-là, mais ce n'est pas en lien avec le système de retraite. Ceux qui sont nés après 1975 doivent faire l'objet d'efforts de rémunération, tout particuliers, qui commenceront dès le 1er janvier 2021. Autre très grand acquis du discours du Premier ministre du 5 décembre, parce que ça a été acté, et c'est justement de ces augmentations de rémunération que nous commençons à parler avec les organisations syndicales, ce sera très substantiel. Chacun peut faire ses calculs, mais à la fin, il est trop tôt pour le dire, puisque par définition...
Tout le monde parle de 10 milliards Emmanuel Macron.
Oui, c'est vrai.
On dit 10 milliards, il sort de quelque part,
ça sort de quelque part. C'est-à-dire que quand vous calculez la revalorisation nécessaire entre maintenant et 2037, vous arrivez à peu près à ce chiffre
donc
de 10
milliards. D'ici 2037,
vous avez une perspective
de quasiment 20 ans, pas du tout 10 ans, Jean-Michel.
Mais ça aussi, ça se discute. C'est pour ça que c'est ça qui est important. C'est que si je vous donnais tout de suite le chiffre, la durée, le montant pour chacun, évidemment, j'aurais un gain politique de le faire tout de suite, mais je ne serais pas sérieux.
Parce que pour être
sérieux, nous avons à tenir compte de tous les facteurs de la réforme et aussi à écouter les organisations syndicales. Mais en tout cas, il y a quand même, dès maintenant, des engagements très fermes qui sont pris et qui sont à entendre parce qu'ils sont historiques. C'est premièrement, nous garantissons par la loi le niveau des pensions des professeurs. Personne n'a jamais fait ça auparavant. Et on les met au niveau des fonctionnaires A de catégorie A comparable. C'est quelque chose qui n'a jamais été dit ni écrit précédemment. Et deux, nous disons quelque chose qui est totalement de nature à rassurer, qui est sous-jacent à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que nous allons augmenter les rémunérations pour arriver à cet objectif. Du coup, c'est pas très difficile de voir la fourchette.
Vous étiez en débat à Nancy avec le Premier ministre. Quand vous disiez prime, les enseignants vous disaient « nous, on veut les salaires ». Vous leur répondez quoi ?
Aujourd'hui, s'il y a un retard de la rémunération des professeurs vis-à-vis d'autres catégories comparables, c'est au titre des primes. Or, s'il y a un risque pour la réforme des retraites, c'était justement, et on l'a tout de suite identifié, du fait que aujourd'hui, ils ont moins de primes que les autres, et donc, comme désormais les primes compteront dans le calcul de la retraite, ils se trouveront ipso facto désavantagés. Et donc, mais nous l'avons dit dès le début, et nous avons dit dès le début que nous allions travailler là-dessus. Donc, nous allons travailler et sur le salaire et sur les primes. Les primes, c'est pas quelque chose que les enseignants méconnaissent. Il y en a aujourd'hui qui sont universelles. Donc, si vous voulez, en réalité, ça change pas grand-chose. Le mot prime parfois fait un petit peu peur. En réalité,
Quand on entend prime, on se dit, il y a des contreparties, on aura une prime si on fait ceci, si on fait cela. C'est ça que
nous avons peur des enseignants. Non, mais justement, ce n'est pas forcément cela. Il y a, de toutes les façons, ce que nous devons garantir, c'est de façon universelle pour tous les enseignants, un même niveau d'augmentation correspondant à ce qui leur permettra de partir
sans demander des contreparties en termes d'aménagement du travail, du temps de travail ou de choses comme ça.
Par ailleurs,
il y aurait ça aussi comme idée.
Non, c'est pas, si vous voulez, c'est pas. faites ceci et donc vous aurez une prime. C'est par contre, c'est quelle est la définition du métier. Vous savez, vous entendez souvent les professeurs qui, à juste titre, disent on en a assez, qu'on soit fustigé pour le fait qu'on ne travaillerait pas beaucoup, etc. Alors qu'il y a beaucoup de travail caché dans ce que nous faisons, la correction de copies, la préparation de cours, etc. Ils ont raison de dire ça. Donc on a une occasion vraiment magnifique, historique en réalité. Un, d'améliorer la rémunération des professeurs. Deux, de parler de l'ensemble de ces missions, de rendre visible ce qui aujourd'hui est invisible. Et aussi de moderniser notre système. Parce que notre système. Non, mais c'est très important. Non, mais attendez, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, parce que c'est justement ce qu'on doit faire saisir, le sens des choses quand il se passe quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de profondément innovant. On change d'époque d'une certaine façon. Avec, un, la possibilité de mieux rémunérer les professeurs. Deux, l'occasion, parce que c'est une très bonne nouvelle de pouvoir les rémunérer à la hauteur nécessaire, de pouvoir discuter de ce qu'est l'école au XXIe siècle. Des séries de choses changent. Nous avons besoin d'accompagnement personnalisé des élèves. On a besoin souvent de travailler autrement. On a besoin de personnaliser le parcours des professeurs. On a l'occasion.
Question et réponse,
Jean-Michel Blanc. Je vous propose d'oublier justement, oublions le mot contrepartie, d'accord. Parlons d'aménagement du travail. Est-ce que ça pourrait passer par plus de présence pour les professeurs de collège et de lycée? À l'école, est-ce que quand vous dites qu'il faut personnaliser les choses, ces mots ont été prononcés à Nancy l'autre soir, ça veut dire quoi?
Personnaliser, c'est par exemple quand vous avez 60 ans et que vous vous dites, tiens, j'ai pas très envie de partir à 62 ou à 63 ans, mais j'aimerais plutôt décélérer progressivement, donc peut-être faire moins d'heures de cours peut-être en avoir fait davantage avant, ou en tout cas moduler les choses en fonction de mes volontés, inversement, rester davantage parce que j'en ai envie. Toutes ces choses, aujourd'hui, vous avez beaucoup de frustration parce que les choses sont beaucoup trop normées, beaucoup trop robotisées, beaucoup trop bureaucratisées. Regardez ce qui se passe en matière de mutation. Il y a beaucoup de frustration souvent chez les personnels de l'éducation nationale parce que les mutations sont trop rigides, obéissent presque uniquement à un ordinateur. Nous avons besoin de personnaliser les choses. C'est une occasion, mais unique, d'être autour de la table pendant 6 mois. Et d'ailleurs, certaines des organisations syndicales ont déjà commencé à le comprendre.
Mais ce qu'ils font, quand ils personnalisent, ils entendent méritocratie. Voilà ce qu'entendent les enseignants. Ils se disent, il va y avoir un régime qui va dépendre de nos mérites. Est-ce que vous pouvez leur certifier aujourd'hui que ce n'est pas ce qui les attend?
Non, mais attendez, le mérite ne fait pas peur aux professeurs. Ils sont rentrés dans la carrière en passant à un concours. Un concours, c'est bien du mérite, sauf erreur de ma part. Donc le mérite, ça ne doit pas être un mot qui fait peur. Très souvent, vous avez des professeurs qui vous disent, c'est incroyable, je fais plein de choses et c'est jamais reconnu. Donc aujourd'hui, l'occasion, c'est justement de reconnaître tous ces mérites trop souvent invisibles. C'est l'occasion aussi de remettre le professeur au centre de la société. Moi, c'est mon grand enjeu, vous le savez bien. Je dis toujours, je suis le ministre des professeurs parce que je pense qu'une société qui va bien est une société qui met son professeur au centre et qui a foi en ses professeurs. Et donc, on doit restaurer aussi cette image des professeurs dans la société. D'ailleurs, je pense qu'elle est assez bonne, mais elle doit redevenir très bonne, notamment en ayant son grand contrat social.
Il ne vous croit plus. Le point d'indice a été gelé depuis des années. Ils vous disent, on n'arrive plus à avoir confiance en vous, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous leur dites?
Attendez, heureusement, ils ne disent pas tout ça. Certains le disent.
Beaucoup d'entre eux, vous l'avez expérimenté à Nancy.
Il y a beaucoup de gens qui reçoivent tous les jours 20 mails des organisations syndicales pour leur expliquer qu'il ne faut pas croire ce que je dis, que ceci, que cela. Donc vraiment, ceux qui continuent. Franchement, il faut avoir l'esprit solide pour résister à ça, avec mon petit mail une fois par mois qui dit, écoutez, c'est pas tout à fait
mais
ça.
Reconnaissez.
Donc ce que je demande aux professeurs,
c'est-à-dire les syndicats font de la politique pour vous.
Ça leur arrive, certains, pas tous, mais ça leur arrive. Petite expérience du sujet. Donc ce que je dis aux professeurs, c'est, moi je souhaite remettre en selle les organisations syndicales sur ces sujets, je le dis très clairement, c'est d'ailleurs ce qui se passe de façon générale pour le pays, mais ça nous oblige tous, nous, le gouvernement, à prendre au sérieux les organisations syndicales et les organisations syndicales à être dans un esprit constructif pour qu'à la fin, soit la France qui soit gagnante.
Mais reconnaissez quelque chose d'étrange.
Je ne peux pas voir ce qui se passe.
Il y a quand même quelque chose d'étrange. Ça fait 10 ans qu'on dit aux enseignants qu'il n'y a pas d'argent, qu'on ne peut pas augmenter leur salaire. Et c'est vrai que les salaires sont très bas, qu'on n'augmente pas le point d'indice.
En début de carrière, en particulier en milieu de carrière.
Et tout le monde le sait, et ils le disent, et on leur dit non, il n'y en a pas. Et puis tout à coup, on dit, puisqu'il faut faire passer cette réforme des retraites, on trouve 10 milliards. Donc ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on nous a raconté des blagues avant ou est-ce qu'on nous raconte des blagues maintenant?
Non, l'effort.
Où on les trouve, ces 10 milliards?
Ben, je vais vous dire, l'effort qui doit être fait est en effet historique. Et il est tellement important qu'en réalité, si certains ont du mal à le croire, c'est précisément parce qu'il est important. Et donc, c'est le paradoxe dans lequel on est, c'est que je suis en train d'annoncer quelque chose de très important qui va se traduire par des améliorations.
Mais on trouve où cet argent qu'on n'avait pas et qu'on a maintenant?
Il faut le planifier sur plusieurs années, bien entendu.
Ah oui, mais bon.
C'est un effort qui sera spécifique de la nation sur plusieurs années. C'est quelque chose que j'ai obtenu du président de la République, du Premier ministre, et qui est donc une avancée très importante pour l'éducation nationale. Et vous savez, quand vous investissez. Oui, mais vous savez, tout à l'heure, je disais, il y a 14% du PIB qui est consacré aux retraites. C'est 6,7% du PIB qui est consacré à l'éducation. Ça n'a rien d'absurde pour un pays de faire le choix de dire on va passer de 6,7 à 7. Et c'est un choix c'est le plus grand des investissements d'avenir. Et c'est ce que je répète en permanence. Je le répète même sur un plan international, puisque j'essaye d'emmener les pays européens dans le même genre de raisonnement. Puisque je pense que dans les sociétés du 21e siècle, on doit investir dans l'éducation. Vous savez, quelqu'un a calculé un jour l'avantage économique et social de la mesure que nous avons prise de dédoublement de classes. On fait gagner de l'argent au pays quand on investit dans l'éducation, mais évidemment c'est sur la longueur.
Monsieur le ministre, on veut vraiment vous poser une question sur cette image qui a beaucoup marqué. La ministre des Sports, hein, Roxana Maracineanu, qui a dû être exfiltrée d'un stade, interpellée avec beaucoup de virulence. Ça dit quoi du niveau de tension dans le pays et à quel point cela vous interpelle, voire cela impacte votre manière actuellement de gérer les choses?
Alors d'abord, je ne me laisse jamais influencer par quoi que ce soit de violent. Je n'ai juste qu'à réagir et à condamner, bien sûr, mais à condamner de la façon la plus ferme. Vous savez, le problème de nos sociétés hyper médiatisées, hyper horizontalisées par les réseaux sociaux, c'est que n'importe qui peut dire n'importe quoi, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et les gens se sentent libres de dire d'être dans l'insulte et d'être dans l'illégalité. Ce qu'ils ont fait est évidemment illégal. C'est donc lamentable. On voit d'ailleurs le courage de Roxana dans ces circonstances.
Mais est-ce que ce climat est inquiétant?
Oui, bien sûr que ça n'est pas bien. C'est la façon dont on en parle aussi.
C'est le gouvernement aussi qui...
C'est la façon d'avoir de la complaisance éventuellement avec ce genre de choses qui, oui, pourrait alimenter la violence. Je n'ai aucune complaisance avec ça. Quand je vois M. Mélenchon avoir en permanence de la complaisance pour ceux qui sont dans les causes de violence, et comme je l'ai vu vendredi, attiser... les choses les plus abjectes qu'il puisse y avoir dans le débat public, c'est-à-dire en l'occurrence l'antisémitisme. Dis que oui, en effet, il y a des gens qui ont voulu déclencher des forces négatives, mais que moi, et bien sûr l'ensemble des membres du gouvernement, nous sommes au contraire dans la position de dire stop à ce genre de choses.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad, et justement Jean-Luc Mélenchon va rappeler ses propos.
Exactement, bonjour Jean-Michel Blanquer. Donc en commentant la défaite de Jérémy Corbyn aux élections britanniques, Jean-Luc Mélenchon, vous en parliez il y a quelques instants, s'en prend au CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et il dénonce, je cite, les genuflexions, c'est pas facile à dire, devant les ukases arrogants des communautaristes du CRIF. Et le président du CRIF lui a répondu sur Twitter, je le cite toujours, ce sont des propos inadmissibles d'un Mélenchon à la dérive. Quelle est votre réaction?
C'est ignoble, il n'y a pas d'autre mot. Vous savez, quand j'ai lu ça, je l'ai lu ce matin d'ailleurs, je n'ai pas lu avant, quand j'ai lu ça, j'en ai pas cru mes yeux. Et donc, je me suis dit, il ne faut pas se laisser emporter, il ne faut pas faire une vaine polémique, parce qu'il n'a sans doute pas dit exactement ça. Donc j'ai voulu regarder les choses froidement. Je suis donc allé voir le blog de M. Mélenchon, et j'ai vu. Il fait une analyse sur la défaite de Jérémy Corbyn, qui est la sienne, mais qui, comme souvent avec Jean-Luc Mélenchon, est assez élaborée, intelligente, avec laquelle je suis en profond désaccord, évidemment, mais en tout cas qui est tout à fait intéressante. Et ça, c'est sur une page. Et tout est normal dans ce qu'il écrit. Et d'un seul coup, la dernière phrase, c'est celle que vous venez de citer. Mmh. Comme quelqu'un qui éructe à la fin, comme quelqu'un qui lâche son vomi avant de partir. C'est quelque chose d'ignoble, c'est inacceptable. Il sait très bien ce qu'il fait quand il fait ça.
Vous y voyez l'antisémitisme?
Écoutez, il y a malheureusement une tradition de l'extrême-gauche française, quand on fait un peu d'histoire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, une tradition, un courant, pas toute l'extrême-gauche, et on voit bien au sein de l'EFI. Moi, jusqu'à il y a peu de temps, je faisais confiance.
Systématiquement,
il est dans l'ambiguïté, il dit des choses qui sont aussi scandaleuses que ce que disait Jean-Marie Le Pen à une certaine époque, et donc c'est toute la classe politique qui doit se scandaliser. Il y a Dr Jean-Luc et Mister Mélenchon. C'est-à-dire, il y a Dr Jean-Luc est républicain, on le voit à la tribune, il dit des choses intelligentes, il parle de République, on est forcément d'accord, puis il y a des moments où on se dit, bah oui, c'est vraiment intéressant, et puis ça a une certaine tenue. Et il y a des moments où on se dit c'est même lui qui peut garantir que cette extrême gauche ne dérive pas. Et puis il y a Mister Mélenchon. Et Mister Mélenchon, il écrit ce genre de blog. Et c'est scandaleux. Et on ne doit pas laisser passer ce genre de choses. Même pas un peu de complaisance.
Est-ce que vous pensez
que pense malheureusement qu'en ce moment, Mister Mélenchon l'a emporté sur Dr Jean-Luc. Et ça, c'est très grave. Et aucun d'entre nous, et quand je dis nous, les responsables politiques en général, de gauche et de droite, ne doivent laisser passer ce genre de choses. J'ai même vu que Olivier Besancenot, d'ailleurs, s'était démarqué sur d'autres propos un peu dérivants de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que, quand je regarde LFI, si vous voulez, je voyais Jean-Luc Mélenchon comme le fléau de la balance, celui qui empêchait que LFI soit complaisant avec l'islamo-gauchisme, etc. Et aujourd'hui, et l'antisémitisme qui va avec. Eh bien, Ce qui s'est passé là, j'espère qu'il le corrigera et qu'on retrouvera Dr Jean-Luc.
On n'aura pas le temps pour une autre question nette. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission spéciale Réforme des retraites avec un débat très attendu entre Jean-Michel Blanquer, le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier. À tout de suite.
Jury, RTL, Le Figaro, LCI. Émission spéciale Réforme des retraites. Jean-Michel Blanquer face à Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Le débat est arbitré par Benjamin Sportouche.
Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints pour ce débat donc sur la réforme des retraites et nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez entendu Jean-Michel Blanquer dans la première partie de cette émission vous demander de la responsabilité également et de proclamer une trêve pour Noël comme Laurent Berger l'a fait ce matin dans le journal du dimanche. Que répondez-vous, Yves Verrier ?
Je réponds que les responsabilités, elles sont de chaque côté. Nous avions, dès le mois d'août, indiqué, parce que depuis le début, FO a expliqué pourquoi nous n'étions pas d'accord avec cette idée, qui est une très mauvaise idée d'un régime unique par points. Et au mois d'août, voyant que nous n'étions pas entendus, nous avions eu le rapport du haut-commissaire M. Delevoye. Nous avions dit, si nous n'avons pas d'autres moyens, nous n'aurons pas d'autre choix que d'appeler
donc
à la
pas
grève.
De trêve.
Et
pas
dès
trêve.
Le mois de septembre, le 5 décembre était annoncé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de temps. Et les seules réponses que nous avons eues, c'était le président de la République, je serai sans faiblesse ni complaisance. Le Premier ministre, je suis déterminé. Le haut-commissaire, je ne transigerai pas. Vous voyez quand même
donc
que c'est assez
trêve.
Fermé.
Donc pas de trêve. Vous dites, il faut qu'on
je
continue.
Je suis concentré où sur le 17 décembre. J'espère que
alors,
nous serons très, très nombreux. J'appelle tous les salariés du privé et du public à se mobiliser
mais
très
c'est
massivement le 17.
Est-ce que c'est
et
possible,
la réponse sera le 17 au soir de la réussite de la grève et de la manifestation le 17 au soir.
Alors vous verrez là si vous faites une trêve ou pas. C'est...
Nous verrons ce que le gouvernement entendra ou non.
Alors, Jean-Michel Blanquer, vous entendez. Ils n'ont pas été entendus malgré la mobilisation. Que répondez-vous à Yves Verrier ?
Je réponds que la porte est ouverte même avant le 17 hein, et qu'elle l'est évidemment après le 17. Donc on est dans une ambiance en réalité d'ouverture au dialogue social. Il y a encore beaucoup de choses à définir. Le système n'est pas encore pleinement élaboré. Il y aura le débat parlementaire d'ailleurs dès la fin du mois de janvier. Donc il y a encore beaucoup de grains à moudre, comme disait André Bergeron. Et autrement dit, la situation elle n'est pas bloquée comme certains voudraient le décrire. C'est d'ailleurs pas ce que vient de dire Yves Verrier. Donc je pense que la notion de trêve de Noël est quand même une notion qui devrait nous rassembler. Et moi, j'espère que les syndicats prendront leurs responsabilités, comme l'a fait la CFDT.
Alors, justement, également, ce que vient de dire le ministre dans la première partie, c'est que bien, l'âge pivot, qui est l'un des points d'achoppement de cette réforme, éventuellement, vous nous disiez Jean-Michel Blanquer, pas forcément dans la loi, si jamais il y a un désaccord. Est-ce que, Yves Verrier, si jamais l'âge pivot est sorti de la loi, est-ce que cette réforme devient acceptable ?
Il y a deux aspects avec cette affaire d'âge pivot. Dès le mois de mars, d'ailleurs, encore une fois, ça fait longtemps qu'on a prévenu. Dès le mois de mars, le haut-commissaire avait parlé d'un bonus. Il n'avait pas parlé de malus à l'époque. Mais nous avions tout de suite mis en garde. On savait très bien que, comme on ne saura pas à l'avenir ce que sera votre retraite jusqu'au dernier moment, en fonction de ce que sera la valeur de service du point, quand vous transformerez vos points en retraite, eh bien évidemment, si les gouvernements demain jouent sur le paramétrage, si à 62 ans ça ne suffit pas, vous n'aurez pas d'autre choix que de continuer. Donc le gouvernement ajoute qui plus est aujourd'hui ce bonus-malus, cet âge pivot, cet âge d'équilibre, ça date du mois de juillet. Dès le mois de juillet, FO avait dit que nous n'étions pas surpris, que c'était inévitablement ce à quoi cela conduisait parce que le Premier ministre, le président de la République, le haut-commissaire, nous devrons travailler plus longtemps.
Si c'est sorti de la loi... Yves Verrier,
non
seulement ça peut changer votre position.
Il faut sortir de la loi immédiatement cette idée de travailler plus longtemps, mais je le redis, c'est inévitablement ce à quoi conduit le système par points, parce que vous aurez un âge à 62 ans qui sera virtuel, vous serez dépendant de ce que vaudra votre capital de points durement acquis. Le moment venu, quand vous le transformerez en point, et si ça ne suffit pas, vous n'aurez pas d'autre choix que de continuer de travailler.
Donc retrait de la loi, c'est ce que vous dites toujours, Jean-Michel
Blanquer. On met de côté cette mauvaise idée.
Et retrait de la loi, parce que vous dites que la loi, globalement, est mauvaise.
C'est une très, très mauvaise idée qui est donnée au président de la République.
Jean-Michel Blanquer.
Bon, chacun sait que Force Ouvrière connaît bien la retraite par point et n'a pas toujours été négatif sur la retraite par point. Chacun sait aussi que cette réforme, c'est une réforme qui reprend l'esprit de 1945 et qu'au fond, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer pour le 21e siècle ce qui a été créé à partir de 1945 pour les décennies suivantes. Autrement dit, un système qui vise l'égalité entre les Français, un contrat social entre les Français, le tout dans un environnement qui évolue avec des grandes caractéristiques, notamment plutôt des bonnes nouvelles d'ailleurs, le fait que nous vivions plus longtemps, le fait aussi que nous ayons des carrières qui sont plus flexibles et qui nous permettent d'aller parfois d'un métier à un autre. Pourquoi est-ce qu'une infirmière qui a fait la première moitié de sa vie professionnelle dans le privé puis dans le public aurait une retraite différente de celle qui fait la première moitié dans le public puis dans le privé? Or c'est le cas aujourd'hui parce que les règles sont très hétérogènes, donc chacun sait que c'est un système injuste, ça a été dit depuis longtemps, mais par contre on tient évidemment à ce que ce système garde ses qualités, c'est-à-dire maintenir un bon niveau de pension pour la plupart des Français, mais on veut que ce soit pour tous les Français. Par exemple les agriculteurs, par exemple les femmes, ce qui fait quand même du monde. Donc si vous voulez, c'est toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans l'angle mort des injustices de notre système que nous voulons maintenant avantager, si je puis dire, et donc arriver à une vraie égalité.
C'est un projet
profondément social.
Alors, vous entendez le ministre, il vous dit aussi sur Agirc-Arrco, c'est-à-dire la complémentaire, vous n'êtes pas contre le régime à points, c'est ce qui est en jeu. Pourquoi, là-dessus, sur cette réforme universelle, l'êtes-vous ?
Mais premièrement, le principal défaut, la situation, elle n'est pas injuste aujourd'hui du fait du système actuel de retraite. Elle est injuste parce que trop de salariés sont confinés à la précarité. Ça n'est pas moi qui le disais, c'est le Premier ministre qui disait « nous n'en avons pas fini ». Ni avec le chômage massif, ni avec la précarité. Et évidemment, quand vous êtes confiné au bas salaire, aux interruptions de carrière, parce que vous n'avez pas de boulot, au temps partiel, parce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un temps plein, que ce soit parce que dans l'entreprise, on vous en donne pas, ou parce qu'il y a la garde des enfants et qu'il n'y a pas de mode de garde qui suffit. À l'arrivée, vous n'avez pas le droit contributif qui permet de vous constituer une retraite correcte. Mais ce n'est pas le système qui crée ça. Et avec le système par points, ce sera pire. À tel point, d'ailleurs, excusez-moi de la formule, mais que le gouvernement est obligé de nous dire « mais on rajoutera des points pour cela, pour compenser ci, pour compenser cela ». Mais c'est déjà fait dans le système actuel. Le Fonds de solidarité vieillesse prend en charge les périodes d'interruption du chômage, les périodes d'interruption de la maternité. Mais le système qu'on nous promet demain va supprimer, par exemple, pour les femmes, puisqu'on ne cesse de nous dire que ce sera mieux pour les femmes, sauf qu'on va supprimer les trimestres de majoration.
Jean-Michel Blanquer vous répond.
Je suis en partie d'accord avec ce que dit Verrier. C'est cela qui est intéressant, c'est que si vous voulez...
Que le système n'est pas parfait, loin de là.
Le système n'est pas parfait, et d'une certaine façon, il vient de le dire. Il dit aussi que ça renvoie à des difficultés actuelles en amont de la retraite. Des éléments de précarité, de pénibilité, de prise en compte de choses particulières, etc. Donc ce qui est en train de se passer, et on le voit bien dans l'exemple de l'éducation nationale, c'est qu'à partir du moment où vous faites en aval, c'est-à-dire pour l'âge de la retraite, un système d'inspiration profondément égalitaire entre tous les Français. Eh bien, du coup, vous vous mettez à révéler comme à marée basse un peu tout ce qui ne se voyait pas suffisamment avant. Autrement dit, des éléments d'inégalité qui, en effet, il faut corriger. L'exemple typique, c'est la rémunération des professeurs. C'est parce qu'on fait le nouveau système de retraite qu'on a une occasion, en quelque sorte, de remettre les choses d'équerre. Alors que jusqu'à présent, les choses étaient souvent boiteuses. On disait, bon, d'accord, vous aurez une rémunération assez faible, mais c'est parce que vous aurez une retraite qui est bonne. Mais parfois, tout le monde n'était pas concerné par ce genre de raisonnement, parce qu'on, par exemple, on n'était pas toute sa vie professeur, dans l'exemple de l'éducation nationale. Même chose pour les agriculteurs. Bref, on a une situation sociale qui peut être largement améliorée, un système de retraite plus égalitaire et l'occasion d'avoir une vision beaucoup plus réaliste de ce qui est égal et ce qui ne l'est pas. Alors, dans la société française.
Yves Verrier, Jean-Michel Blanquer qui met aussi 10 milliards sur la table pour les enseignants. Est-ce que ça, c'est de nature à vous convaincre ?
Et encore une fois, la question... Il y a un défaut de confiance, monsieur le ministre, en votre gouvernement. C'est ça la difficulté. Le dernier rendez-vous salarial pour les fonctionnaires, par exemple, c'était au mois de novembre. Et au mois de novembre, on nous a dit, comme l'année précédente, comme depuis 10 ans, que le point d'indice dans la fonction publique, ce qui fait la rémunération de l'ensemble des fonctionnaires, serait à nouveau gelé. Votre gouvernement, au mois en 2018, a décidé de désindexer les pensions de base de l'inflation. C'est-à-dire qu'en 2019, sur décision du gouvernement, les pensions ont perdu 1% de pouvoir d'achat. Votre gouvernement refuse d'augmenter le SMIC. Il a donné une prime d'activité qui est financée par la CSG, donc en partie d'ailleurs par les salariés eux-mêmes. Et le résultat, c'est que lorsqu'on nous dit qu'on garantira à l'avenir 85% du SMIC, on oublie que le moment venu, vous perdrez les 100 euros de prime d'activité. Et au demeurant, je trouve qu'il y a beaucoup aussi, on nous a accusé de faire des fake news sur les simulations, monsieur le ministre. Mais il y a beaucoup de fake news de la part du gouvernement. Par exemple, quand le Premier ministre nous dit que l'on garantira, on ancrera dans le marbre les 85% du SMIC à l'avenir, il oublie simplement que c'est dans la loi depuis 2003 et que ça aurait dû être réalisé en 2008. C'est la loi Fillon de 2003.
Alors, Jean-Michel
à
Blanquer vous
c'était
répond.
C'était déjà du donnant-donnant.
Yves Verrier, Jean-Michel Blanquer, et fake news, Jean-Michel Blanquer. Non, vous adressez à Yves Verrier.
Il est exact qu'il y a eu des simulateurs qui ont été diffusés, qui ont créé une certaine peur. Alors même que les paramètres qui permettent de faire les calculs ne sont pas stabilisés. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement tarde à en faire. C'est parce que c'est techniquement impossible, puisque tant qu'on n'a pas justement calé des choses, on ne peut pas simuler. Donc c'est... Monsieur Verrier a parlé de confiance. Je crois que c'est le mot majeur.
Il n'y a plus de confiance.
Oui, mais c'est vrai. Mais il a malheureusement raison. Mais on est tous acteurs
envers
de confiance.
Vous, envers
non, mais pas seulement. Si vous voulez, envers nous, bien sûr. Mmh. Mais ce serait malheureusement vrai, je crois. C'était vrai de gouvernements précédents. Et nous espérons que ce sera... plus vrai dans le que ce ne sera pas vrai dans les temps futurs et nous y contribuons tous. Si vous voulez, si on est juste là à commenter la défiance en disant ah il y a de la défiance et d'ailleurs j'en rajoute une louche, on va pas créer, on va pas sortir de la France vers une meilleure situation. Moi mon appel c'est le cercle vertueux de la confiance. Quand je reçois FO, j'ai reçu FO vendredi dans le domaine de l'éducation. On s'est dit des choses extrêmement intéressantes. Ils ont dit des choses intéressantes. Je crois que je leur ai dit des choses intéressantes.
Vous avez avancé
sur les perspectives. Oui. Encore une fois, j'ai utilisé.
Alors ça veut dire qu'il y a un double discours de Yves Verrier, vous allez nous dire.
Tout à l'heure, j'ai utilisé l'expression Grahamoud qui, quand même, est restée célèbre puisqu'elle est collée à FO, si j'ose dire, parce que c'était André Bergeron qui avait.
Un des prédécesseurs de Yves Verrier.
Qui avait, d'une certaine façon, contribué à façonner l'identité de FO sur l'idée qu'il fallait toujours discuter parce qu'il y avait, quand il y avait quelque chose qui permettait d'améliorer la condition des travailleurs. Moi, ce que je dis à Yves Verrier et à FO, et au-delà de FO, au monde syndical, c'est. Si je prends mon domaine, mais c'est vrai dans tous les domaines, mais dans mon domaine, il y a du grain à moudre. Il y a de quoi faire. Et donc, ça ne sert à rien d'exciter les esprits et de polariser la société française entre les pour et les contre. Il faut aujourd'hui arriver à s'unir entre Français et nous prendre, nous, gouvernement, au mot. Puisqu'on affiche des principes, vous avez le droit de nous dire que vous n'êtes pas conforme aux principes. Et les principes sont clairs. C'est, je les rappelle, c'est l'égalité entre tous les Français et puis c'est la pérennité du système. Alors, c'est-à-dire nous prenons nos responsabilités, non seulement
vis-à-vis
des Français, mais aussi des futurs Français, de ceux qui vont naître. Et donc, si on n'est pas raccord avec ce que je viens de dire, alors il faut nous le dire.
Alors, il va vous le dire peut-être. Est-ce qu'il y a du grain à moudre,
alors,
Yves Verrier?
Premièrement, si on nous propose de négocier sur l'augmentation des salaires, des rémunérations, des enseignants, mais pas seulement d'ailleurs, de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Il y avait beaucoup de questions sur Twitter autour de l'annonce de notre débat sur les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, par exemple, qui sont en difficulté aujourd'hui. Si on nous propose de négocier le grain à moudre de l'augmentation dans le cadre du statut de l'indiciaire personnels de l'éducation nationale et plus largement d'ailleurs des fonctionnaires, nous ne demandons que cela. Mais ça, c'est distinct de la question de la retraite. Et puisque vous parliez des simulateurs qui sont difficiles à faire.
Je peux me permettre de vous répondre sur ça, juste ça. Vous citez l'exemple des AESH, pour tous ceux qui nous écoutent. C'est donc les accompagnants des élèves handicapés.
Tout à fait.
En situation de handicap. Ces personnels étaient, il y a 2 ans encore, presque tous des contrats aidés. C'est-à-dire dans le contrat le plus précaire qui soit. Au moment où je vous parle, c'est-à-dire 2 ans après, 85% d'entre eux ont soit un CDD de 3 ans, soit même de plus en plus, ça va se multiplier, en CDI. Évidemment, de plus en plus d'entre eux peuvent être à plein temps, pas assez, ça va continuer, on va progresser encore sur le sujet, et donc avoir une meilleure rémunération, et ce faisant, une meilleure cotisation aussi pour la retraite. On est en train de leur aménager, à partir de maintenant, un véritable parcours de carrière. Donc on est typiquement sur un cas où il y a eu une amélioration très nette en matière de déprécarisation, que bien entendu un chemin reste à faire, et je le dis à tous les AESH, que je considère maintenant comme pleinement membre de la Maison Éducation Nationale. Le sujet des retraites les concerne, évidemment, et on doit le regarder en face. Et j'en profite pour dire qu'en effet, les personnels non enseignants de l'Éducation Nationale sont aussi concernés par la dynamique actuelle.
Est-ce que ça vous rassure, Yves Verrier ?
Je voudrais quand même revenir sur la question des simulateurs. On n'arrive pas à faire et...
Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils seront mis en place.
Non mais attendez,
précisément...
Ce qui est important, c'est que Yves Verrier puisse acter que sur le sujet qu'il avait lui-même choisi, on a eu en 2 ans une déprécarisation, un mouvement de déprécarisation, et que ça a un rapport aussi avec la retraite, parce que ces personnels auront
mais
une
ces
meilleure
simulateurs,
retraite que si restaient dans la situation.
Et ces simulateurs, ils seront mis en place quand, précisément?
Alors, le Premier ministre a dit...
Le 18 pour des cas, voilà,
exactement.
Des situations, et ensuite, cas par cas...
On essaye d'être sérieux, on essaye de faire faire des choses qui ne soient pas de la poudre de perlimpinpin, mmh. qui soient des choses ancrées. Là, en l'occurrence, on sort un premier simulateur mmh. qui permet d'avoir une sorte
la
de
semaine,
première approche.
Dans la semaine.
Pour autant qu'on ait les... Et on n'a pas encore tous les paramètres. Il y aura surtout des cas types qui vont sortir.
Et donc ensuite, le vrai simulateur
au cours du mois de janvier, il va y avoir un travail. Alors, et c'est ensuite, à la fin de la loi, qu'évidemment, quand on aura tous les éléments, qu'on aura
les verriers sur ces simulateurs.
Entre parenthèses, on n'a pas ça vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ne savent absolument pas quelle retraite.
Il y a des enseignants qui disent qu'ils vont perdre 900 euros par mois. Yves Verrier.
Je l'attendais.
Je leur dis que non.
Pour le coup, moi, je connais un simulateur aujourd'hui qui est très, très efficace. Et qui vous permettent de connaître exactement ce que sera votre situation de retraite. Ça s'appelle Info Retraite. C'est dans le cadre du système actuel, le droit à l'information, qui regroupe aujourd'hui l'ensemble des régimes et qui permet de reconstituer intégralement une carrière. Et comme nous sommes aujourd'hui dans un système de retraite à prestations définies, on calcule la retraite sur la base des 25 meilleures années, on connaît ça, ou les 6 derniers mois dans la fonction publique, eh bien, une fois que votre carrière est reconstituée, et elle l'est, à partir de 50-55 ans, vous pouvez aller sur ce site et vous avez une idée très précise de ce que sera votre pension en fonction de l'âge auquel vous liquiderez votre retraite. Donc celui-là, il marche très très bien, il est très efficace,
vous l'avez
il
vu,
est encore amélioré, c'est dans le système actuel. Par contre, je vais vous dire, sur les simulateurs, les premiers qui sont sortis et qui sont eux aussi, alors le président de la République avait dit c'est de la pipe, mais c'est ceux du rapport de M. Delevoye. Parce que les premières simulations qui ont été données, c'est celles du rapport de M. Delevoye, sauf qu'il avait légèrement triché, puisqu'il avait allongé les durées de cotisation par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui dans le système actuel, pour faire la démonstration que le projet du régime unique par points serait meilleur. Donc, encore une fois, on nous dit maintenant, les simulateurs, ils sortiront une fois que la loi sera votée. Donc, encore une fois, faites-nous confiance, tout sera gravé dans le marbre.
Jean-Michel Blanquer.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. D'abord, une publicité pour Retraite Info, et vous avez bien raison, parce qu'on n'a pas tous le réflexe.
Donc, c'est le simulateur de
France
ouvrière.
Quelle force ouvrière participe. Et je rappelle que les organisations syndicales participeront, je dirais presque encore plus, à la vision de la suite, hein, puisque dans la réforme telle qu'elle existe, ils seront les co-gestionnaires de ce système. Donc c'est fait pour responsabiliser tout le monde, tout ça aussi. Mais sur la question du simulateur, aujourd'hui, oui, en effet, si on a le temps, si on prend l'initiative, on peut regarder ce que le passé et le présent nous permettent de savoir sur l'éventuelle retraite qu'on aura ensuite. Mais lorsqu'il y aura la retraite par points, l'avantage, c'est que vous pourrez aussi faire des choix de carrière. Mmh. Vous aurez beaucoup plus de lucidité sur ce qui se passe. Et quand vous avez eu 3, 4 employeurs différents, qu'à certains moments de votre vie, vous avez hésité entre deux choix, bien vous pourrez, avec beaucoup plus de lucidité qu'aujourd'hui, voir en quoi
le système par points vous avantage. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand Yves Verrier vous dit ces simulateurs montrent qu'il y a une baisse des pensions?
Ah non, je ne suis absolument pas d'accord, évidemment. Certains simulateurs... Si vous prenez le cas des professeurs, bien sûr que, comme nous l'avons dit, le président, le premier l'a dit, et donc de ce point de vue-là, on est d'accord, si on appliquait aveuglément la réforme, oui, il pourrait y avoir des pertes à partir de 2037. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons mettre en place le système qui permette que ça ne descende pas. Donc, à partir du moment où vous faites une simulation sans tenir compte de ce correctif qui a été clairement annoncé, bien entendu que ça n'est plus juste. Par ailleurs, il y a toute une série de parcours qui vont bénéficier de, on le sait, j'ai cité les agriculteurs parce que c'est le cas type. Déjà, tous ceux qui sont en dessous de 1 000 euros aujourd'hui, par définition, vont y gagner puisqu'on garantira ce 1 000 euros de base. C'est déjà un premier élément très social. Les femmes qui ont eu un enfant même, deux enfants, trois enfants, vont y gagner par rapport à la situation d'aujourd'hui. Tout ça, c'est donc, alors, bien entendu, puisque c'est fait pour être plus égalitaire, ceux qui vont y gagner, c'est ceux qui sont dans les situations les plus difficiles aujourd'hui.
Yves, on voit que vous pouvez avoir un dialogue aujourd'hui. En même temps, ce que le ministre sous-entendait tout à l'heure, c'est qu'il y a des négociations possibles, vous avez reçu Force Ouvrière, et vous nous dites que vous demandez toujours le retrait. Est-ce qu'il n'y a pas un double discours aussi des syndicats aujourd'hui, négocier en coulisses et afficher un message de fermeté frontalement, publiquement?
Non. Il n'y a pas de négociation en coulisses, ça je peux vous le dire. On m'a même reproché de ne plus participer aux concertations parce que j'ai dit que je n'allais pas aller régler un système avec lequel je suis en profond désaccord et dont je suis convaincu qu'il est mortifère.
Donc le
droit à la
retraite ne vous a pas convaincu.
Et je vais vous dire, c'est une véritable très très mauvaise idée qui a été donnée au président de la République en campagne. Et le gouvernement devrait se rendre compte si au bout de 3 ans d'un engagement de campagne, d'un gouvernement qui le porte, il n'est pas en capacité de convaincre et d'expliquer, c'est qu'il y a véritablement un problème. Et ce dont on s'aperçoit, monsieur le ministre donne la situation des enseignants, on s'aperçoit tout d'un coup, effectivement, il a quand même fallu qu'on fasse des simulations dont on nous a dit qu'elles étaient fausses pour s'apercevoir qu'ils allaient poser problème pour la retraite des enseignants, ce système. Résultat des courses, on nous dit il faut apporter une réponse. Mais sur chacun des aspects, les femmes, c'est pas vrai. Aujourd'hui, tout est pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse. La maternité, l'arrêt pour la maternité, les deux années, les huit trimestres liés à la naissance et à l'éducation. Ça disparaît. Les durées de majoration vont disparaître.
Les points seront
la seule chose qui va changer, c'est que les 5% vont arriver dès le premier enfant, puis le deuxième enfant, et au troisième enfant, 5 plus 2 de ce que j'en ai compris. Oui. Mais entre-temps, vous aurez perdu les majorations de durée de cotisation, ce qui fait que si vos carrières ne sont pas suffisantes, et malheureusement, et c'est ce qui crée aujourd'hui la difficulté au moment de la retraite pour les femmes, c'est que la situation s'améliore, mais elles sont encore en difficulté d'avoir une carrière complète. Et quand on nous dit que ce sera plus égalitaire, vous savez, un euro cotisé donnera les mêmes droits. Eh bien, faites le calcul, c'est très simple. Petit salaire, petit capital de points, petite retraite.
Alors, qu'est-ce que vous rapidement, parce qu'on arrive au terme de ce débat, Jean-Michel Blanquer.
Il faut juger la réforme à l'aune de ses principes. Un des grands principes, c'est d'améliorer l'égalité femmes-hommes en matière de retraite. Nous avons pris des dispositions, M. Verrier les a dit très rapidement, mais notamment le 5 plus 5 plus 7, ce qui fait que dès le premier enfant, vous avez un gain, qui, à nos yeux, sont des améliorations. Si, de manière démontrée, on peut faire mieux en matière d'égalité femmes-hommes, voilà un des exemples typiques de ce qui est à discuter. Mais bien entendu que nous irons toujours dans le sens de cette plus grande égalité. Je ne vais pas échanger tous les arguments techniques.
Mais enfin, la discussion ne semble pas forcément possible,
là, par exemple, sur les grands principes, on est d'accord.
Travail.
D'une certaine façon, ce qui est très paradoxal, c'est que c'est nous qui sommes en train de défendre les grands principes de 45 et le principe d'égalité, des choses qui sont brandies par le monde syndical. C'est nous qui en sommes les vecteurs. Et c'est assez paradoxal, on le voit sur ce sujet comme sur d'autres, c'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'on est à front renversé. En réalité, nous sommes tous héritiers de grands principes qui doivent nous unir, c'est-à-dire les principes du service public, les principes de l'unité des
Français, vous répondre rapidement.
Retraite pour chaque Jean-Michel Blanquer, qui est travaillé dans le public ou dans le privé.
Vous lui dites, c'est 45, c'est nous, les principes de 45. Est-ce que c'est le gouvernement qui défend les principes de 45
Puisque M. Blanquer faisait référence à André Bergeron, je lui rappellerai que depuis 45, mon organisation syndicale est partie prenante de la sécurité sociale. Ça a été le cas en matière de santé. C'est Bergeron qui se félicite d'avoir créé l'assurance chômage. Malheureusement, quand votre gouvernement cette année a décidé de prendre la main sur l'assurance chômage, sa décision, c'est 3 milliards d'euros d'économies sur les droits des demandeurs d'emploi qui vont toucher qui ? Les plus précaires et plus souvent les plus jeunes. Et mon organisation syndicale a été à l'origine de la généralisation des retraites complémentaires. Nous sommes partie prenante de l'administration du Conseil national d'assurance vieillesse. Je pense qu'en la matière, on a une histoire, on sait de quoi nous parlons. Je pense que nous sommes qualifiés aussi pour analyser précisément l'enjeu de ce projet de régime unique.
Et en 15 secondes, Yves Verrier, est-ce que vous pensez, Jean-Paul Delevoye, peut-il encore porter cette réforme après les dernières révélations du Monde ?
Évidemment, la confiance, elle est plus difficile dans ces circonstances, mais ça relève de la responsabilité.
Vous demandez son départ ou pas ?
Ça relève de la responsabilité du gouvernement et de M. Delevoye. Ça n'est pas, moi, je ne suis ni procureur, ni instructeur, ni quoi que ce soit.
Merci à tous les deux pour ce débat instructif. Merci Jean-Michel Blanquer, merci Yves Verrier et merci à tous de nous avoir suivis.
Important de dire quand même qu'il y a des grands principes partagés. Des grands principes partagés, c'est quand même que les Français aient une retraite égale dans le futur. Et que sur cette base de ces principes partagés,
Jean-Michel Blanquer, on arrive au terme de cette émission. Très belle semaine, très belle fête à tous et à l'année prochaine pour un nouveau Grand Jury.